Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, il est 18h18. Thomas Souto, vous recevez Ségolène Royal, ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique et ancienne ministre de l'Environnement.
Et peut-être future candidate à la présidentielle, c'est un sujet qui tourne en ce moment. Bonsoir Ségolène Royal.
Bonsoir.
Bienvenue dans RTL Soir. Emmanuel Macron vient de clôturer le G7 de Biarritz. Il est en train de le faire en ce moment, conférence de presse finale. Alors on peut gloser pendant des heures sur la forme, sur la mise en scène, sur toute la communication autour de ce sommet. Oui. Moi ce que je voudrais savoir, c'est si selon vous, ce sommet a été utile, à quoi il a servi ?
Écoutez, quand on regarde la suite des sommets du G7, hein, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les 7 ans, la France préside cette réunion des 7 puissances industrialisées, parmi les puissances industrialisées. Donc, en général, ce n'est pas fait pour prendre des décisions opérationnelles. Et je crois que compte tenu quand même des personnages un peu spéciaux qu'il y avait autour de la table, comme Trump et Johnson, ça faisait contraste avec le G7 d'il y a 7 ans, en 2011, avec Barack Obama, c'est sûr que ça fait contraste. Et on a quand même atterri avec une décision opérationnelle sur l'Amazonie. Donc ne serait-ce que
20 millions d'euros.
D'aide oui, peu importe le montant.
Pour les secours. Voilà.
Mais le fait même que ce sujet ait été mis à l'ordre du jour a fait remettre au devant de la scène un sujet climatique. Un sujet environnemental, un sujet écologique, alors même qu'autour de la table, il y a le président des États-Unis d'Amérique qui dénonce le fait que le réchauffement climatique n'existe pas et qui, je vous le rappelle, a déclaré être sorti de l'accord de Paris.
Donc ça, c'est un bon point. L'aide à l'Amazonie, c'est un bon point, c'est du concret.
L'utilisation d'un fait d'actualité, d'ailleurs il était temps, puisque ça faisait des mois que le Brésil avait engagé des actions de déforestation dramatiques qui ont conduit d'ailleurs directement à ces incendies. Et pourquoi est-ce que ça concerne la planète tout entière? C'est parce que la forêt est comme l'océan, ce qu'on appelle un puits de carbone, c'est-à-dire absorbe le gaz carbonique, rejette de l'oxygène, et par conséquent, chaque fois qu'un hectare disparaît à l'échelle de la planète,
c'est l'oxygène en moins.
Le réchauffement climatique qui s'accentue.
Évidemment. Sur l'Iran, vous êtes satisfaite? On entend ce soir que Donald Trump n'exclut pas de rencontrer le président iranien Rouhani. Ça, c'est du concret. Vous qui avez vécu des G7 de l'autre côté en tant qu'actrice, est-ce qu'on peut croire ce genre d'engagement? Est-ce qu'on croit ce qu'on dit à la fin d'un G7.
Vous avez vu, il a été très dur. Il a dit cela, puis ensuite derrière, il a dit mais les Iraniens ne respectent pas les accords. Il faut quand même savoir que...
Ce soir, il dit les conditions sont réunies pour une rencontre.
Oui, mais d'où part-on? On part du fait que c'est Donald Trump qui a dénoncé l'accord sur l'Iran. Pourquoi est-ce qu'il a dénoncé cet accord? Pourquoi est-ce qu'il est sorti brutalement de cet accord? C'était parce que uniquement Barack Obama avait signé cet accord. Donc, en arrivant en responsabilité, il a voulu prendre le contre-pied de ce qu'avait fait Barack Obama et au risque de relancer les tensions internationales, c'est lui qui est responsable de la remise de l'Iran en colère d'une certaine façon et du redémarrage.
Les Iraniens n'ont aucune responsabilité. C'est pas un peu facile de dire c'est tout la faute de Donald Trump et rien de la faute des autres?
C'est quand même lui qui a dénoncé l'accord qui avait été fait par la communauté internationale. Alors je veux bien que Donald Trump soit plus intelligent que toute la communauté internationale, y compris Barack Obama, mais enfin, il cherche à faire porter la responsabilité uniquement sur les Iraniens, tout d'un coup, en expliquant que l'accord était ni fait ni à faire. C'est faux, l'accord n'était pas ni fait ni à faire. Il y a eu des négociations internationales très dures, et ce qui était dramatique, moi je suis allée à Ispahan en 2016, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, et j'ai vu, avec des entreprises françaises pour travailler sur la question de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, des énergies renouvelables. Et nous n'avons pas pu nouer les accords commerciaux et les accords industriels parce que, justement, Donald Trump ayant dénoncé cet accord, ayant maintenu les sanctions économiques malgré l'existence de l'accord, c'était donc une trahison, d'une certaine façon, de l'accord, puisque ça maintenait les sanctions économiques. La France avait levé les sanctions économiques.
On entend que vous n'êtes pas une grande fan de Donald Trump et peut-être une nostalgie de Barack Obama. J'ai une question, Ségolène Royal.
On entend surtout qu'il faut faire attention aux déclarations que fait Donald Trump, apparemment, alors que c'est lui qui est responsable de la montée de la crise, et il va falloir suivre de très près ce qui va se passer.
Si demain vous étiez, ou après-demain, élu présidente de la République, comment vous travailleriez avec des personnages comme Donald Trump, comme Boris Johnson, comme Jair Bolsonaro? Quelle est la bonne méthode? Non, mais c'est un conseil qui peut peut-être intéresser Emmanuel Macron.
Moi, je pense qu'il ne faut faire preuve d'aucune faiblesse, parce que quelle est la stratégie de ces personnages? C'est
de tout envoyer
d'être tonitruant. de dire des choses tellement extravagantes que les gens en face, qui sont bien élevés, qui respectent le droit et qui respectent tout simplement les relations humaines, soient désemparés, déstabilisés et ont toujours peur d'un clash. Par exemple, on a eu peur que Donald Trump fasse un clash, quitte le G7, etc. Mais non, pas du tout. Parce que pourquoi ? Parce que Donald Trump avait intérêt à se comporter correctement pendant ce G7, car n'oublions pas qu'il est en campagne interne aussi. Donc ça lui donne aussi du prestige d'être sur la scène internationale.
Ça veut dire
donc
qu'il a bien joué, Emmanuel Macron, il l'a bien manœuvré, entre guillemets ?
Oui, je pense qu'il l'a bien joué, mais peut-être qu'il a surestimé la capacité de nuisance de Donald Trump, le risque d'un clash par Donald Trump, alors que je pense que Donald Trump n'avait aucune raison de faire ce clash pour des raisons de politique intérieure et parce que aussi, comme il va avoir le G7, malheureusement, l'année prochaine, c'est-à-dire juste en pleine campagne électorale, il avait aussi intérêt à se tenir correctement, parce que sinon, le G7 aurait été boycotté par les partenaires autour de la table. Donc, il faut faire preuve d'aucune faiblesse à l'égard de ces personnages.
Pas en avoir peur.
Ils sont bien sûr élus, donc démocratiquement élus, légitimes, mais on n'est pas obligé de s'aligner sur leur comportement. Et moi, je suis particulièrement sensibilisée à ça, compte tenu de la façon dont ils parlent des femmes, dont ils parlent du sexe des femmes. Et ça, c'est absolument odieux.
J'ai une question sur Emmanuel Macron, sur l'écologie. Parce que le chef de l'État est-il, selon vous, l'ami de la planète ou le champion du monde des phrases choc et du greenwashing politique? Est-ce qu'il y a deux Macron, un Urbi et un Torbi, un en France et un au monde, en quelque sorte?
Je pense qu'il est sincère, mais qu'il reste à démontrer que ses déclarations sur la scène internationale se traduisent aussi dans la politique nationale. Parce que si Nicolas Hulot a démissionné, il y a bien une raison. C'est parce qu'il y avait vraiment un délitement et un recul dramatique de la protection de la nature et de la protection de l'environnement. Songez qu'on a même fait signer à Nicolas Hulot un permis de recherche d'hydrocarbures au large de la Guyane. Donc c'était quand même énorme. Le délitement du code de l'environnement, la suppression des baisses d'impôts pour les travaux d'économie d'énergie.
Qui donc ça, c'est pas très écolo, d'ailleurs. Tout ça.
Et donc, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il fasse remonter à son niveau les arbitrages pour que vraiment, ça ne soit pas aux mains des technocrates ou des rapports de force entre ministères, mais que les décisions qui doivent être prises aillent dans le sens de la protection de l'environnement.
On a une première question d'auditeur au 3210 et c'est Kevin qui nous appelle de Romainville en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin, bonsoir Kevin. Madame Royal vous écoute.
Alors tout d'abord dire à Madame Royal que je fais partie d'une génération qui pour la toute première fois votait, hein, puisque je me suis engagé en politique à 18 ans pour justement la campagne Ségolène Royal. Il y a quelque chose, sa voix compte encore beaucoup, hein, on écoute encore beaucoup les gens de ma génération Ségolène Royal quand elle s'exprime, en tout cas les gens de gauche de cette époque. Cependant, on se pose tous des questions par rapport à la dernière campagne présidentielle.
Alors posez-nous la vôtre, s'il vous plaît.
Oui, voilà. Oui. Madame Royal avait annoncé sa défection à Benoît Hamon lors de la dernière campagne, alors que justement tous les éléphants 10 ans avant avaient fait la même chose avec elle. Et on s'est tous posé la question du pourquoi, parce que par rapport au thème LGBT, au thème écologique, c'était quand même un candidat qui lui ressemblait beaucoup, en tout cas de ce que nous on pensait sur la forme. Et c'est quelque chose que les gens de ma génération n'avaient pas compris, pourquoi ils faisaient la même chose à Benoît
Hamon
qu'on a fait à Ségolène Royal.
Pourquoi vous avez lâché Benoît Hamon comme vous aviez été lâché à l'époque en 2007 par d'autres hiérarques socialistes? C'est la question de Kevin.
J'ai pas lâché Benoît Hamon. Enfin, je veux dire, vous savez, moi je fais une différence entre les militants socialistes, l'histoire du socialisme et l'appareil du Parti socialiste. C'est tout. Donc je me sens contrainte.
Vous êtes toujours une femme de gauche?
Ah bien sûr. Plus que jamais.
En 2022, si vous êtes candidate, vous ne serez pas une candidate en même temps.
La question, je l'ai écrit dans mon livre, ce que je peux enfin vous dire, je pense qu'il y a un lien très étroit entre les violences faites aux femmes, les violences faites à la nature et le déficit démocratique. Donc je retrouve les piliers de mon engagement de 2007. Et je pense que l'appareil du Parti Socialiste n'a pas pris suffisamment en compte ce tournant à un moment où elle aurait pu le prendre, c'est-à-dire être dans la continuité de la campagne de 2007. Au lieu de ça, l'appareil socialiste à l'époque déjà m'a combattue. Et donc moi, je suis fidèle aux idées fondamentales de la gauche.
Mais le PS est fini pour vous.
Mais pas le PS est fini, parce que ça, c'est pas amical
de dire ça. En 2022, si vous êtes candidate, ça sera la candidate du PS, la candidate de la gauche, la candidate transmouvement.
Le PS a son autonomie. Donc ça sera une candidature écologiste, féministe, sur l'exigence démocratique, avec quelque chose qui reste à construire, comme j'avais construit en 2007, désir d'avenir.
Merci. C'est quoi Noël, je note que vous dites ça sera et non pas ce serait. Peut-être qu'on avance un petit peu. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans RTL Soir.
RTL Soir, 18h28.
Et il est presque venu le moment d'ouvrir l'œil de Natacha Polony ce soir, la directrice de Marianne, qui pour le coup va faire les gros yeux au président Bolsonaro. L'œil 2, c'est l'un des nouveaux rendez-vous d'RTL Soir et c'est dans quelques secondes, juste après le rappel des titres d'Isabelle Choquet.
RTL Soir.